un podcast France Culture.
18h15 sur France Culture, nous vous retrouvons Caroline Brouet en direct des rencontres de Pétrarque à Montpellier.
Merci Anne Faucambert, vous serez toujours là demain ?
Toujours.
Alors demain, 18h, pétante. À demain.
À demain.
Ma chérie, quand on a la fâcheuse habitude de chercher dans chaque fleur une gouttelette de poison, on trouve, aussi longtemps que l'on vit, des raisons de gémir. Prends donc les choses à l'envers et cherche du miel dans chaque fleur. Tu trouveras toujours une raison d'être gaie et sereine. Chaque matin, j'inspecte soigneusement les fleurs de tous mes arbustes. Je rends visite à une petite coccinelle rouge avec deux petits points noirs sur le dos que je maintiens en vie, malgré le vent et le froid, dans un chaud bandage de coton. Je regarde les nuages, toujours nouveaux et chaque fois plus beaux. Et au fond, je ne me sens pas plus importante que cette petite coccinelle. Et dans le sentiment de cette infinie petitesse, je me sens ineffablement heureuse.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices des rencontres de Pétrarque en partenariat cette année avec Midi Libre. Et à vous, spectateurs et spectatrices, au frais grâce aux feuilles de l'immense tilleul de la Cour Soulages du rectorat de Montpellier où nous avons installé nos micros. Un tilleul, je ne cesse de le dire, dont la présence est centrale et pas seulement parce qu'il est au milieu de la cour. Il a peut-être des choses à nous apprendre, comme tous les êtres vivants qui nous entourent, animaux non humains, végétaux, dont on découvre d'année en année l'extraordinaire richesse, bien loin de l'idée cartésienne de l'animal-machine. Alors de quelle intelligence parle-t-on à leur sujet ? En quoi cette intelligence autre peut-elle être bénéfique pour nous ? Comment nous en inspirer pour nous grandir dans la vie et habiter autrement le monde, comme dirait l'anthropologue Philippe Descola ? Trois invités nous accompagnent ce soir. Vinciane Després, bonsoir.
Bonsoir.
Référence majeure de la pensée du vivant, a écrit le journal Le Monde, s'il vous plaît. Philosophe s'intéressant autant aux stratégies animales qu'aux stratégies des scientifiques qui les observent. Professeur associé à l'Université de Liège. Autrice de très nombreux ouvrages collectifs. Mais j'ai envie quand même de donner un certain nombre de titres parce que les titres, c'est tout un programme chez vous. Composer avec les moutons lorsque les brebis apprennent à leur berger à leur apprendre. Chien, chat, pourquoi tant d'amour? Et puis des livres individuels, là c'est des collectifs. Habiter en oiseau, autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation. Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions? Penser comme un rat. Et si les animaux écrivaient? Et le dernier, paru aux éditions de la Découverte, Les morts à l'œuvre, dont on dira un mot, je pense, dans cette émission. À vos côtés se trouve Cédric Sapin de Four, bonsoir.
Bonsoir.
Un homme de la montagne, désormais écrivain, dont le récit bouleversant Son odeur après la pluie apparue chez Stock ce printemps ou ce début d'été, quelque chose comme ça.
Fin mars.
Voilà, fin mars. Et c'est le grand succès de ce printemps. C'est un livre dans lequel vous racontez votre vie pendant 13 ans avec Ubac. Ubac, c'était un bouvier bernois. Autrement dit, pour ceux qui ne connaissent pas les chiens, c'était un chien. Et Véronique Mur a fait le déplacement jusqu'à nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Véronique Mur, vous êtes botaniste. Vous êtes enseignante à l'École nationale supérieure du paysage et vous êtes l'auteur d'un livre que j'ai là sous les yeux, qui est un très beau livre également, qui est un livre de photos et de légendes que je vais montrer au public de la cour du rectorat, qui s'intitule « Évasion botanique » chez Atelier B, un livre paru en 2021. Mais c'est avec un autre livre que je vais commencer cette émission, si vous le voulez bien, un livre dont la parution est prévue pour le 15 septembre 2023. Il est signé James Bridle. Il s'intitule « Toutes les intelligences du monde, animaux, plantes, machines ». Et l'exergue est tiré du Phèdre de Platon. « Je crois que les cigales, qui comme c'est naturel au fort de la chaleur, chantent au-dessus de nos têtes et conversent entre elles, ont aussi l'œil sur nous. » Et je pense depuis longtemps, vous le savez, vous qui nous écoutez, que cet arbre devant nous, le fameux tilleul, a un œil sur nous. Un œil qui nous dit des choses, un œil qui nous parle. Donc j'ai envie de me tourner vers la botaniste d'abord, que vous êtes Véronique Mur, pour savoir si, comme moi, vous avez la sensation non seulement qu'il nous regarde, ce tilleul, mais qu'il nous dit des choses.
Alors c'est plus que la sensation, c'est la certitude. Simplement, les mots que l'on emploie sont pas adéquats au langage de l'arbre, et c'est ça qui rend la chose compliquée et souvent controversée. C'est qu'on emploie des mots humains Et on ne parle pas du tout arbre. Et par contre, moi je suis absolument persuadée qu'on ne peut pas imaginer que l'ensemble du règne végétal ait établi des connexions, des relations avec tous les animaux, par exemple, notamment les abeilles, les oiseaux, et pas avec nous, qui sommes les derniers arrivés dans l'histoire. Forcément, ils nous ont vus arriver, on reparlera peut-être tout à l'heure de ces différentes temporalités, mais bien évidemment qu'il y a des choses qui se passent entre les arbres et nous. Quelquefois, nous le ressentons moins parce que nous ne sommes pas attentifs, que nous les considérons pas souvent comme des êtres vivants. Celui-ci est majestueux au milieu de cette place et donc forcément, il pousse à l'admiration. Les arbres que l'on va retrouver le long des routes, par exemple, ou sur certaines places qui sont plutôt là comme des poteaux télégraphiques, eh bien, la relation est moins facile.
Il faut donc être à l'écoute. Ça, c'est la première chose. Être attentif et être ouvert à ce que cet autre nous regarde ou nous dit, mais avec son propre langage. Est-ce qu'il vous parlait, Hubac, Cédric Sapin de Four?
En tout cas, nous avons joyeusement établi un langage. Un langage qui était fait d'autre chose que la parole, mais qui était fait de mille autres signes, de mille autres signaux, qui m'ont imposé, suggéré, de me décentrer et de me désintéresser de moi, ce qui est une performance. Voilà. Et en fait, c'est ce langage qui lie l'altérité qui est passionnant dans cette relation-là. Parce que rien de soi-même n'est un recours pour comprendre l'autre. On est très très doué pour s'entourer d'êtres miroirs avec lesquels on s'entend très bien, jusqu'à nos certitudes, jusqu'à nos peurs, jusqu'à nos ignorances. Mais là, rien de nous n'est un recours. Et ça, c'est une relation qui est tout à fait passionnante. Et Véronique parlait du champ lexical, ce champ lexical qui parfois peut être la source d'une incompréhension ou d'une controverse. Eh bien, finalement, je ne dis pas que je le prendrais dans l'autre sens. À l'écriture, il m'a vraiment plu d'utiliser, alors de façon assez naturelle, il n'y avait pas d'intention de provocation, mais il m'a plu d'emprunter un champ lexical qui est habituellement approprié, préempté par l'homme avec un grand H. J'ai utilisé joyeusement l'amour, le mot amour, le mot décision, le mot conviction, le mot courage, le mot conscience, le mot intelligence. Et ce n'est pas de l'anthropomorphisme, mais c'est justement une révision du cadastre lexical, c'est-à-dire pourquoi serions-nous les usagers, les propriétaires exclusifs de ces mots? Ils sont ouverts à tous, et plutôt que l'empire sémantique, les jardins ouverts me parlent plus. Donc, je ne vais pas fuir de cette cour si nous utilisons nos mots habituels pour parler de cet arbre merveilleux.
En effet, vous parlez du mot intelligent, vous assumez complètement dans votre livre le fait que votre chien était, selon vous, intelligent. Vous aussi, vous avez un chien, une chienne plus exactement, Vinciane Després, oui. Alba, qui a 7 ans. Oui. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les mots, alors peut-être anthropomorphiques, je ne sais pas, de Cédric Sapin du Four à propos du chien?
Ah ben d'abord totalement, parce que c'est, alors je pense que je pourrais répondre très simplement oui, parce que les descriptions sont tellement précises et qu'elles font tellement vivre Hubac dans une attention tellement extrême à tout ce qu'il fait, un souci tellement d'être juste à son égard, d'être juste dans l'attention qu'il lui porte, d'abord oui. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que je me disais tiens, c'est intéressant qu'on puisse en effet penser que ce sont rien que des mots humains qui vont parler de ce tilleul. Et puis je repense à Francis Ponge, moi, à la poésie, et je me dis, mais, et c'est là où je parle ici aussi de Cédric, c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui relève de la littérature et de la poésie, c'est d'arriver à utiliser à la fois une syntaxe et à la fois des mots dont non seulement on peut dire qu'ils sont très équivoques, mais peut-être même plurivoques. Et là, je repense à Francis Ponge, c'est-à-dire que si on commence à utiliser des mots qui ont de multiples significations, dont on sait qu'il peut y avoir quantité de malentendus, qu'on peut entendre quantité de choses différentes, prenez le mot intelligence, Bon, on sait très bien tout ce qu'on ne parlera pas de la même chose. Et est-ce que c'est pas justement là où ça devient intéressant? De savoir que les mots, alors quand Cédric parle du cadastre lexical, je crois que c'est de ça dont il s'agit, c'est, et si on nourrissait les mots de telle sorte à ce qu'ils puissent désigner plus de réalité, quitte à ce que la grammaire se charge, d'une certaine manière, de nous aider à suivre le chemin qu'il demande à être suivi. Et je me dis que c'est là où le livre de Cédric, comme la poésie, comme d'autres livres, me font penser que je ne me tracasse plus d'être anthropomorphe avec les mots. Je m'en tracasserai dans la relation, parce que les malentendus peuvent coûter cher avec un chien. Il peut se faire renverser, il peut mordre, il y a des malentendus qui sont à éviter. Mais avec les mots, je m'en tracasse de moins en moins parce que je me dis, tiens, on va les enrichir de nouvelles significations et ne plus les garder exclusivement à notre usage.
Donc votre chienne est intelligente. Votre façon.
Alors, mais je l'aime, alors forcément. Tout ce qu'elle fait est intelligent, même quand c'est une grosse connerie.
Cédric Sapin-Dufour, ce que j'ai compris en préparant cette émission, beaucoup de choses en tout cas, mais en lisant votre livre et en préparant avec nos deux autres invités, c'est qu'il fallait faire très attention à ne pas généraliser. Donc à ne pas parler des animaux, à ne pas parler des chiens, à ne pas parler des arbres et des plantes, etc., etc. Et en particulier parce que, d'abord, ils ne sont pas tous intelligents, comme nous. Ils sont faits d'individus. Et Ubac et vous, vous vous êtes reconnus immédiatement. Vous dites que vous le trouviez, vous l'avez compris, mais que reste un mystère absolu du lien. Et je voudrais que vous nous parliez de ce lien, je voudrais que vous nous fassiez le portrait de cet individu qu'était Ubac, de la personnalité qu'il avait, avec vos mots encore.
Mais vous avez totalement raison de parler de la... Enfin, en tout cas, moi, pour moi, en tant qu'auteur, mais en tant qu'être humain, sensible au vivant, au-delà d'être auteur, de la nécessité absolue de fuir... l'essentialisation, la globalisation, et de se rappeler que nous avons des individus, dont cet individu. Et là où on réfléchit sur l'intelligence, mais ce n'est pas tout à fait le propos ici, mais si on réfléchit sur l'intelligence animale, le premier des scepticismes ou la première des résistances, ce serait justement de refuser l'altérité, l'unicité de cette personne, de cet être. Après, vous faire le portrait du bac, je pense que les personnes s'y présentes n'ont pas envie de rentrer à minuit, 1h du matin à la maison. Mais là encore, ce n'est pas par provocation, mais c'était un être vivant, un animal doté d'une bonté et d'une humanité que j'ai peu perçue, peu mesurée, peu ressentie.
C'est quoi un être animal autre que nous ? Doté d'une humanité.
C'est un être attentif. C'est un être attentif, regardant, sentant, sachant, anticipant. C'est pas sacrificiel, c'est assez naturel et c'est assez contagieux. Je parlais tout à l'heure de la décentration de soi-même, qui est, selon moi, aujourd'hui, avec le bilan et l'écriture, qui est un moment aussi de réflexion autour de ce lien qui m'a uni à ce chien, c'est vraiment cette horizontalisation des rapports. Voilà. Nous sommes très forts, même dans la notion d'ensauvagement, qui est d'actualité, presque. Même dans la notion d'ensauvagement, nous avons une tendance assez maladive à verticaliser nos rapports et à déterminer ce qui est plus valable, que le reste, les individus plus appréciables et plus aimables que les autres, et la compagnie d'un chien, en fait, nivelle. Je trouve que c'est un amour de plein pied, et c'est très plaisant de se retrouver à ce niveau-là.
Vous dites qu'il vous a réappris à lire, à écouter le vivant autour, et que d'ailleurs, il vous a aussi appris à vivre assis par terre, puisque... Au long des secousses avec lui et des frottis avec lui, vous avez appris à vivre plus à même le sol, donc à réapprendre ou à apprendre une sensibilité terrestre. Est-ce que ça, Véronique Mur, c'est aussi des choses que vous sentez, vous, la botaniste, c'est-à-dire cette sensibilité, bien entendu, bon, terrestre au sens très large du terme, hein, mais cette horizontalité de la nature au lieu de nous vivre vertical?
Alors, c'est intéressant que vous parliez de terrestre et d'horizontalité parce que, justement, en même temps que vous parliez, je pensais à cet arbre à nouveau, puisqu'on l'a là.
On y revient toujours, au tilleul.
Et je me disais que, en fait, lui ne montre pas tout de lui, parce que un arbre, c'est bien sûr ce qu'on appelle le houppier, le feuillage, le tronc, et puis tout le système racinaire, et certainement que la partie là. Alors, à nouveau, je mesure mes mots, hein, j'allais dire la plus importante, en tout cas, certains chercheurs parlent de centre névralgique, en tout cas, le lieu de la communication la plus importante de l'arbre, ce sont les systèmes racinaires que nous ignorons là. En fait, vous êtes tous assis, certainement, sur les systèmes racinaires des arbres, qui font, de cet arbre plutôt, qui font partie intégrante de l'arbre. Et c'est là où nous échappe, nous, humains qui sommes juste sur le sol, cette dimension de ces êtres vivants que sont les plantes, en fait. Et je trouve que ça rajoute, en fait, une autre dimension qui est beaucoup moins accessible, une part de mystère qui est compliquée à prendre en compte parce qu'elle nous est invisible. Il y a beaucoup de choses qui nous sont invisibles dans les signes qu'envoient les arbres, mais les racines encore plus.
Patienne Després, si on élargit à la question animale, est-ce que repérer cette diversité des intelligences animales et végétales, être à l'écoute du vivant, qu'on soit au sol ou qu'on soit debout, est-ce que ça nous amène à être plus attentifs à la diversité des intelligences humaines? Est-ce que ça c'est aussi fait pour nous ramener à nous et à ouvrir nos esprits d'une certaine façon?
Il n'est pas impossible qu'un anthropologue trouverait intérêt à cette question. Je la trouve intéressante, mais je ne suis pas en train de la renvoyer à l'anthropologue. Je dis simplement, il y a quelque chose ici qui touche à l'anthropologie. Alors je vais repartir de ce qui vient d'être dit et pourquoi donc je trouve que c'est une question prodigieusement intéressante et que l'anthropologie fait déjà des choses avec cette question. C'est-à-dire quand Eduardo Vivero de Castro dit la question de l'anthropologie, la mission de l'anthropologie, ce n'est pas de nous ramener d'autres mondes, c'est de nous faire sentir et de faire exister la diversité des manières d'être, la diversité du monde. Ça c'est le premier point. C'est là où l'animal n'existant pas, les animaux plutôt, nous ouvrent une imagination formidable. Alors je vais un petit peu continuer en disant, moi je parle très peu de l'intelligence des animaux, de moins en moins, j'en ai beaucoup
L'intelligence parlé. Des plantes est aussi un terme controversé
voilà.
Aujourd'hui.
Mais pas pour les mêmes raisons en fait. Et moi mes raisons sont les suivantes, c'est que c'est un mot alors qui est quand même relativement, c'est très difficile, très très difficile avec ce mot-là, qui était tellement chargé par des cursus scolaires, par quantité de choses. Autant je plaidais en faveur du fait de chargeons les mots de nouvelles significations, autant certains me semblent un peu plus fermés et vont refuser de nouvelles significations. Et donc quand on parle d'intelligence, on pense tout de suite à la manière humaine, c'est-à-dire occidentale, contemporaine, moderne, d'être intelligent. Et je me dis, quand un mot se ferme sur lui-même et il devient difficile de l'ouvrir pour ajouter des significations, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux en changer? En tout cas, pour parler des animaux et des humains, de trouver d'autres registres de parole. Il y a un registre de parole que j'ai trouvé chez la philosophe de l'environnement australienne Val Plumwood et qui dit « Et si on parlait des sagesses ? Et si on disait que ce qui caractérise chaque être vivant, ce sont des sagesses. Ben, par exemple, quelle est la sagesse, je ne sais pas moi, de la corneille, ce serait peut-être bien le sautillement. Quelle est la sagesse du rouge-gorge, ben, c'est peut-être le chant, ou du merle, c'est le chant. La sagesse du vol. Bref, quelle est la sagesse du bac, ben, c'est la bonté. Visiblement, il a une attention extrême à autrui. Avoir un œil sur tout. Hein, quand on dit les êtres vivants, un œil sur nous et un œil sur tout. Ben, le bac, je pense que comme un chien qui déployait jusqu'à l'excellence certaines sagesses que les chiens cultivent en compagnie des humains. Et donc, je parlerai de ce côté-là, et je dis, ben, une fois qu'on a dit ça, et qu'on substitue au mot intelligence, c'est-à-dire à toutes les connotations de cognition qui sont dans l'intelligence, et qu'on parle de sagesse, ben, à ce moment-là, les d'autres manières d'être au monde, d'autres cultures, vont peut-être se redéfinir dans un rapport qui sera peut-être un peu moins ethnocentré.
On essaye dans cette émission aujourd'hui de réfléchir à ce que nous apportent, ce que nous apprennent les autres êtres vivants. J'essaye d'éviter le terme intelligence même dans le titre de cette émission, oui, précisément pour ces raisons-là. Cédric Sapin-Dufour, si on réfléchit à la façon dont les humains vivent en lien, leur relation avec les animaux, en tous les cas, vous, comment vous l'avez vécu avec Ubac, si j'ai bien compris, il vous a quand même permis de renouer aussi bien avec donc la sensibilité terrestre qu'avec votre propre corps, avec vos propres émotions. C'est-à-dire de libérer la possibilité de vivre pleinement des émotions, ce qui n'est pas toujours évident dans la société, même si on progresse de ce point de vue-là.
Oui, alors j'étais quand même très doué pour militer pour que la pudeur ne m'étouffe pas. Enfin, voilà, en tout cas, et qu'il y ait une certaine porosité. Mais puisqu'il est question des apprentissages ou des enseignements, parce que finalement j'étais l'apprenti et il était le tuteur, celui de l'immédiateté, celui de la célébration de l'instant, j'y reviens sans cesse, vraiment, et de la joie. J'ai rarement observé de chiens, alors peut-être que je n'ai pas les canaux, les antennes pour décoder, de chiens et d'animaux mélancoliques. Il doit y avoir, bien sûr qu'il y a au sein d'une vie psychique profonde des traumas avec tout ce que ça entrave de l'existence. Évidemment, j'en suis persuadé. Mais en ce qui concerne ma relation avec Ubac, la possibilité de la joie, la disponibilité à tout ce qui peut animer, égayer une existence dans l'instant, ça, ce sont véritablement les enseignements qui me restent encore aujourd'hui et qui étaient certainement en moi et qui ne demandaient qu'à s'amplifier et qu'à ressurgir, comme vous le disiez, mais véritablement l'acceptation de la gaieté, l'acceptation que cette minute à laquelle nous sommes en train de consacrer notre vie, notre temps, soit essentielle, voilà ce que j'ai gardé.
Vous dites Ubac vous a rendu la vie plus ample et l'univers plus vaste. Que nous apprennent les autres êtres vivants? C'est la question qu'on pose ce soir en compagnie de nos trois invités, Cédric Sapin-Dufour, Vinciane Després et Véronique Mure. Je voudrais qu'on prenne un tout petit peu de distance, de recul par rapport à notre question, et je vais me tourner vers vous, Vinciane Després, puisque la longue fréquentation qui a été la vôtre des éthologues vous ont appris non seulement à regarder les chercheurs travailler, mais vous ont quand même appris à regarder les animaux progresser aussi, et surtout les progrès de la discipline. Alors qu'est-ce que cette longue fréquentation des éthologues vous ont appris sur les progrès de la discipline et sur le comportement animal? Vous en avez fait un certain nombre de livres à ce sujet. Donc, on sait bien que depuis peu d'années, quand même, on regarde les animaux autrement, les animaux autres que nous, encore une fois, on regarde les animaux autrement. Quel progrès a-t-on fait pour vous?
Alors, il me semble que il y a une première chose, c'est quand j'ai commencé à travailler sur cette question, enfin, que j'ai commencé à trouver les éthologistes tellement passionnants, c'est parce qu'en effet, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Et je remarquais qu'en quelques années, des choses qu'on n'aurait jamais osé dire, que les scientifiques n'auraient jamais osé dire, se mettaient à l'essayer, se faisaient controverser, et puis finalement, ça passait.
Par exemple, oui.
Prenons un exemple très simple. Mais il y avait une espèce d'émulation à partir des chimpanzés. Je vais dans les chimpanzés dans les années 60. Jane Goodall va revenir du terrain en disant des choses sur les chimpanzés qu'on n'imaginait pas un seul instant possible de dire à propos des animaux. Du style, ils ont des outils, ils ont des cultures, ils ont des sociétés égalitaires. Bon, ça, après, on en est revenu sur cette question. Mais bon, voilà, ils ont des organisations sociales hyper sophistiquées. Bref, il y a plein de choses. Et elle va revenir et d'abord ce sera le scandale et puis ça va devenir de plus en plus accepté, notamment parce que d'autres primatologues vont revenir avec le même type de nouveautés et de nouveaux regards sur les babouins notamment. Bref. Et puis je remarque une chose, alors je vais le dire très vite pour ne pas prendre la parole trop longtemps, mais moi je remarque une chose, c'est que les scientifiques après disent, le spécialiste du corbeau dit, les chimpanzés font ça, mais mon corbeau il est malin aussi, hein, il devrait pouvoir y arriver. Et d'une certaine manière, il y a une espèce d'émulation pour arriver au panthéon cognitif. Et puis les corbeaux réussissent, hein, les chimpanzés peuvent mentir, je suis sûr que les corbeaux peuvent mentir, on va leur proposer ça. Et les corbeaux se mettent à mentir, formidable. Et ainsi, ah ben si les corbeaux peuvent le faire, alors là, peut-être que les pies y arriveront, le spécialiste de la pie, ma pie va y arriver, et hop, et on met les pies dans une situation, par exemple, de se reconnaître dans un miroir. Et je remarque qu'il y a une espèce d'émulation qui fait que les chercheurs vont tous se mettre à se dire, si ces questions sont bonnes pour les chimpanzés, peut-être qu'elles seront bonnes pour nos animaux, et peut-être que les chimpanzés ont bénéficié d'une espèce de privilège, d'un népotisme épouvantable, puisque ce sont nos plus proches cousins. Ça, c'est un point. Et je remarque deuxièmement, il y a quantité de choses qu'on n'aurait pas osé dire, que les scientifiques n'auraient jamais osé dire ni publier, qui gardaient dans la carnet de notes, et maintenant elles sont tout à fait acceptables. Avant les années 2000, on ne pouvait pas parler de culture chez les animaux, maintenant il n'y a plus aucun problème pour reconnaître des tas de formes culturelles chez quantité d'animaux. Autre chose, par exemple, dans le début des années 2000, il y a des chercheurs qui ont dit, mais les animaux, quand ils sont vraiment créatifs, quand ils inventent, en fait, on n'en parle jamais dans les articles scientifiques. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit qu'une fois les comportements d'invention. Quand un animal fait vraiment quelque chose qui sort de son répertoire spécifique usuel, ben on ne le publie pas parce qu'on ne l'a vu qu'une fois, c'est une anecdote. Et depuis le début des années 2000, il y a des chercheurs qui ont dit et qui ont été écoutés, dorénavant les anecdotes, puisque ce sont les grands moments de créativité des animaux, vous devez les publier parce que nous devons aussi, d'une certaine manière, les connaître dans des beaucoup plus vastes répertoires et ne plus essayer de savoir qu'est-ce que peut l'espèce en général. Et donc, on est avec un problème, en effet, d'individualité qui va émerger. Il y a des individus qui font des choses que les autres ne font pas et il faut en tenir compte parce que ce sont des inventions.
Est-ce que c'est la même chose, Véronique Mur, avec la botanique ? Est-ce que depuis plusieurs années maintenant, on se rend compte que les plantes font des tas de choses qui nous dépassent et qu'on commence à peine à comprendre, voire qu'on accepte de reconnaître ?
Alors, tout à fait. Francis Allais, le botaniste Francis Allais Montpellierin, a l'habitude de dire que l'arbre qui lui était enseigné quand il était jeune est plus du tout le même que l'arbre aujourd'hui. Je suis un tout petit peu plus jeune que Francis Allais, mais je peux dire exactement la même chose. Quand j'ai étudié à Montpellier, mais j'ai fait mes études de botanique ici, et les arbres tels qu'on nous les enseignait n'étaient pas du tout les mêmes. Les connaissances, notamment sur toutes les questions de communication qui ont été menées depuis, en fait, toutes les recherches qui ont été menées depuis ces plusieurs décennies, mais enfin pas tant que ça, révolutionne notre connaissance, mais aussi notre rapport à l'arbre. Et en réfléchissant à cette question de qu'est-ce que peut nous amener, alors on met ce mot intelligence entre guillemets, moi j'ai clairement amené comme réponse pour les arbres et pour toutes les plantes le vivre ensemble. Parce que je crois que cette connaissance que l'on a aujourd'hui de toutes les relations que les plantes établissent entre elles, alors avec des interprétations qui sont controversées, et je crois que la controverse, elle est sur l'interprétation que l'on fait de ces relations qui sont établies avec l'ensemble du vivant, mais les faits existent.
Vous dites que les plantes font société.
Oui,
j'aime bien le terme de coévolution, que ce soit symbiose ou concurrence. D'ailleurs.
Voilà, les plantes font société, c'est évident, et c'est quelque chose qu'il nous faut absolument avoir toujours en tête, notamment pour aborder une question qu'on va peut-être pas aborder là, mais de l'arbre en ville, du futur de l'arbre en ville avec les changements climatiques. Il est indispensable de penser l'arbre comme un être vivant qui a besoin de faire société. Pour moi, plus que de nouvelles essences, c'est ça qu'il nous faut mettre en avant en premier.
D'ailleurs, il y a un terme qui a apparu aussi très récemment, me semble-t-il, vous allez me contredire si je me trompe, mais c'est le terme de résilience à propos de la nature, de ce qu'on appelle la nature, je serais là aussi contredite par Philippe Descola, mais par exemple à propos du ginkgo biloba, et on sait que les arbres, certaines espèces résistent particulièrement à la sécheresse, aux incendies, le ginkgo biloba par exemple, le séquoia, mais on parle de résilience, là aussi, passons sur l'anthropomorphisme, mais le regard évolue par rapport à ça, non seulement parce qu'elles s'adaptent à leur environnement, mais parce que les plantes méditerranéennes, par exemple, ont développé toutes sortes de stratégies. Le terme de stratégie s'adapte aussi bien aux végétaux qu'aux autres animaux.
Complètement, vous avez pris l'exemple de l'incendie, par exemple, c'est quelque chose qui est frappant en Méditerranée. Les paysages ont été façonnés par l'incendie. Les plantes sont pratiquement toutes pyrophytes, avec des stratégies différentes. Le pin d'Alep n'a pas la même stratégie que le chêne ou que l'arbousier, mais toutes savent, entre guillemets, à nouveau renaître après un incendie. Mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à percevoir, en tout cas quand il y a un feu. J'en parle à dessein parce qu'on est dans une saison, et il y a eu déjà quelques incendies autour de Montpellier ces jours-ci. Notre position par rapport à ça, c'est toujours de se mettre en surplomb et de se dire, ben, la forêt a été détruite, tout est mort, replantons pour sauver la forêt. Mais pas du tout, pas du tout. Si on se met à l'échelle des dynamiques végétales, la forêt va renaître d'elle-même, parce que ces plantes sont des pyrophytes et ont ces stratégies. Alors, après, on va pouvoir mettre tout un tas de nuances à ce que je dis. Bien sûr, c'est très rapide et caricatural. Et par exemple, la puissance du feu va changer la donne aussi. Hein. Les rythmes de retour du feu changent les donnes. Mais quand même, on a beaucoup de mal à voir ce regard-là.
Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais vous entendre tous les deux, Vinciane Després et Cédric Sapin de Four. C'est à la fois l'idée de stratégie. Est-ce que vous avez constaté, avec Ubac, mais avec les chiens précédents et les chiens suivants quand même, parce que vous en avez eu d'autres, des stratégies particulière. Et puis cette idée qu'a évoquée à l'instant Véronique Mur de la remise en cause de l'exceptionnalisme humain, au fond. C'est-à-dire un moment où on se dit si on comprend finalement que l'intelligence est la chose la mieux partagée du monde, ben, on gagne aussi en humilité, nous. Donc on sort de l'exceptionnalisme humain. Voilà, sur ces deux points-là, disons.
Moi, je vais partir, on en parlait tout à l'heure, mais je vais partir d'une scène à laquelle j'ai assisté qui dit beaucoup. Nous nous promenions avec Ubac en bord de route, et là, il a aperçu, parce que moi j'étais trop occupé à moi-même certainement, il a aperçu un escargot traversant la route. En tout cas, il semblait que son objectif était de traverser la route, puisqu'il avait une orientation quand même perpendiculaire à l'axe de la route. Il était quasiment arrivé à bon port, c'est-à-dire de l'autre côté de la route. Aventure pour laquelle il était parti certainement une bonne semaine avant. Donc c'était un miraculé. Et Ubac n'a pas trouvé mieux que de se saisir avec une infinie délicatesse de son compère gastéropode et tranquillement, assez fier de lui-même, on parlait de bonté tout à l'heure, l'a déposé à son lieu de départ. Donc, disons 4 jours aller, 5 secondes retour. Et si on se risque à analyser cette scène, il y a quand même une intention. J'ai écouté les émissions précédentes et on peut passer une nuit à essayer de définir l'intelligence. Mais si c'est une lecture d'une situation, une adaptation à un problème, alors pour le coup qui n'est pas son problème mais qui est le problème d'un collègue, et cette intelligence n'ayant comme valeur que si elle est partagée, que si elle est au service de l'autre, moi, ce jour-là, j'ai trouvé notre chien d'une intelligence toute particulière. Mais tout à l'heure, on parlait de mystère, un mystère de l'invisible et des racines. Et si on part de scène, encore une fois, j'essaie de ne pas tout expliquer. En tout cas, j'ai essayé de ne pas tout expliquer à l'écriture du livre, parce que l'écriture est plus de façon un petit peu plus ample, la littérature et même l'art, c'est un espace de questionnement, de doute. Et si on a des réponses à tout, le grain nourricier, le sillon sur lequel on travaille, s'assèche. Quand je vois un de mes chiens s'évertuer à sortir un caillou de la rivière, de poser ce bloc sur le bord de la rivière, de retourner au centre de la rivière, de prendre un autre bloc, d'amener ce bloc, de reprendre le précédent, je n'ai pas envie qu'on me l'explique, en fait.
Non, mais ça vous fait quoi, à vous ?
Je trouve ça fascinant parce que, en tant qu'écrivain, après, j'ai une liberté totale d'interprétation.
Mais en tant qu'humain ?
Et bien, je ne comprends pas. Et quand je suis dans l'incompréhension, dans l'incertitude, c'est que je suis dans le vrai. Et je peux tout imaginer. Je peux considérer que, à ce moment-là, c'était une chienne. C'est peut-être une orpailleuse qui a trouvé la fortune pour son maître désargenté. Ça peut être, elle peut être en collaboration avec les castors pour construire un barrage. Elle peut construire un cairn parce qu'elle m'a vu faire des cairns. Et surtout, je peux ne pas l'expliquer. Et ça, il faut que je maintienne. J'ai compris l'autre soir que la science n'avait pas ni prétention ni vocation à tout expliquer, et je la remercie vivement.
Bastien Després, pendant longtemps quand même, la relation entre humain et non humain, c'était une relation faite de domination. Est-ce que là encore, la longue fréquentation qui a été la vôtre en tant que philosophe, mais de l'éthologie et des animaux, vous permet de dire qu'aujourd'hui c'est quand même en train de changer?
Ça dépend pour qui. Il y en a qui ont moins de chance que d'autres, je crois. On va pas.
Vous voulez dire moins pour les scarabées que pour les
moins pour les chimpanzés, moins pour donc les mammifères quand même, et les oiseaux ont quand même de nets avantages de préférence. Puis je parle pas des animaux. Alors si on parle des mammifères, évidemment, et des oiseaux, c'est les oiseaux, les animaux d'élevage, évidemment, là, c'est encore très mal parti pour eux. Mais il est vrai que. Allez, un tout petit exemple qui me paraît très intéressant. Je remarque que depuis quelques années, les scientifiques qui mènent des épreuves, des expériences avec certains animaux, ben maintenant, ce sont les animaux, ils doivent être volontaires pour participer aux expériences. Donc, ça a commencé avec les chimpanzés. Donc, par exemple, je vais parler, ça se passait comme ça au laboratoire de Yerkes, mais chez Matsuzawa au Japon. Ben, on appelle les chimpanzés le matin, ils doivent travailler, quoi, ils doivent résoudre des problèmes cognitifs. Et ben, on les appelle le matin, ils reçoivent un petit déjeuner, puis ils reçoivent un fruit. Et puis après le fruit, ils ont le droit soit de rester pour travailler, soit de retourner sur les aires de jeu. Et certains jours, ils travaillent, et d'autres jours, bah, de suite, non, aujourd'hui, j'en fous pas une. Alors les chimpanzés, évidemment, c'est toujours les premiers de la classe, mais j'ai lu dernièrement, maintenant ça va faire quelques années, Grégory Berns, qui est un chercheur en neuroscientifique qui étudie les chiens, ben, ils voulaient essayer de voir est-ce qu'on peut lire dans un PET scan, hein, c'est presque fait pour eux, mais sauf que eux n'aiment pas du tout. Est-ce qu'on peut mettre un chien dans un IRM? Le chien, non, il va pas aimer ça du tout, c'est trop de bruit et tout, c'est impossible. Il faut l'endormir pour le mettre dans un IRM, mais si vous voulez étudier son cerveau, vous pouvez pas l'endormir. Et donc, il a créé un dispositif pour habituer sa chienne à aller dans le PET scan. Et elle a fini par s'y habituer, donc il a pu faire. Et puis d'autres maîtres, voyant les résultats dont ils publient dans le journal universitaire local aux États-Unis, d'autres maîtres ont dit, mais nous aussi, on veut bien que notre chien aille, voilà. Et donc, il a créé un protocole de recherche où les maîtres doivent signer un consentement éclairé, comme pour les parents pour les enfants. Et si le chien n'a pas envie de travailler ce jour-là, il n'est pas obligé. Et dernièrement, des rats, dans un laboratoire, les chercheurs essayent de savoir est-ce que les rats savent jouer à cache-cache. Et donc, les chercheurs jouent avec les rats à cache-cache. Une fois, c'est le chercheur qui cherche, une fois, c'est le rat. Et la preuve que s'il y a du volontariat, c'est qu'il n'y a pas de nourriture comme récompense. Parce que c'est là où il y a toujours une contrainte, même avec le volontariat, très souvent, c'est ben, on leur donne un peu moins à manger la veille, et donc forcément, l'animal, il veut une récompense alimentaire, donc vous ne pouvez pas savoir si c'est vraiment, il a envie de jouer ou pas. Et là, il n'y a pas de récompense alimentaire, c'est juste un câlin quand on se trouve. Et là, je trouve qu'il y a quand même quelque chose, c'est une toute petite anecdote, mais il y a quelque chose comme d'intéressant de se dire, ben, les expériences sont plus intéressantes quand les animaux ont envie de collaborer.
Est-ce que c'est la même chose avec les végétaux, Véronique Mur? Est-ce qu'il y a des jeux de cache-cache entre, je sais pas, entre insectes, pollinisateurs et fleurs, disons?
Bien évidemment que la fleur, alors, l'invention de la fleur par le règne végétal, qui est la dernière invention, on pourrait dire, hein, de toute cette histoire de l'évolution des végétaux. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'elle est concomitante avec l'évolution des insectes, notamment, et que la spécialisation des fleurs est concomitante à la spécialisation des insectes. Et que tout est fait pour que ça marche ensemble.
Alors, c'est l'histoire de la passifleur et du papillon, par exemple.
Voilà, par exemple.
Que vous pouvez raconter.
Oui, il y a vraiment de très jolies histoires à raconter.
On va laisser passer l'avion.
Il y a de très jolies histoires comme ça de liens. Il y a la passiflore et le papillon où il y a des causes évolution. Et tout à l'heure, quand je parlais du vivre ensemble, derrière ça, j'entendais le mot coévolution. C'est-à-dire que le règne végétal, je rappelle juste une petite chose qui me paraît essentielle, c'est que la sortie des plantes, ce qu'on appelle la terrestrialisation, hein, donc la sortie des océans, L'époque, alors on ne va pas chipoter sur les dates précises, mais c'est environ 470 millions d'années. Je vous rappelle que Homo sapiens, c'est 300 000 ans, que le facteur multiplicateur entre la présence du règne végétal sur Terre et des hommes est de 1500. Donc il y a 1500 fois plus de temps que les plantes sont sur Terre que nous. Et donc vous voyez que dans tout ce temps-là, à la fois l'apprentissage, mais la coévolution a été, de mon point de vue, le maître mot de ce que l'on connaît aujourd'hui des relations entre le végétal et les animaux notamment, mais pas que les animaux, puisqu'il y a les champignons, il y a les bactéries, donc ça déploie une coévolution avec tout être vivant.
Et il reste beaucoup plus longtemps que nous, preuve avec avec ce tilleul, ce qui n'est pas le cas des animaux qui vivent quand même moins longtemps normalement, hein, moins longtemps que nous. Vous l'avez éprouvé, Cédric Sapin-Defour, Ubac est mort donc après 13 ans d'existence. Ça, c'est peut-être quelque chose qui reste encore, hein, dans l'imaginaire ou dans les représentations humaines, c'est-à-dire au moment de la perte d'un animal, éprouver une profonde tristesse. Ben, c'est quelque chose qu'on a du mal à vivre librement parce que le regard de la société reste assez condescendant, il y a de la moquerie. Mais malgré tout, on apprend de la mort, là aussi, qu'est-ce que ça nous apporte? On apprend de la mort d'un animal, le rapport à la mort et donc le rapport à la vie.
Oui, est-ce que c'est cela qui confère la puissance et l'intensité de la relation à la relation? Je n'en sais rien. Moi, je serais prêt à essayer une relation beaucoup plus durable avec un animal. Je suis certain qu'elle ne perdrait en rien en puissance. Mais vous avez raison, au classement des êtres aimables, l'animal vaut quand même pas grand chose, quoi qu'on en dise. Il y a des chapelles qui vénèrent l'animal, mais quand on sort de ces chapelles, l'amour, le lien que l'on peut avoir avec l'animal est très vite vu comme une appréciation un petit peu mauve, quoi, une tendresse enfantine et voire infantile. Et si ce lien se maintient, si on le diffuse, si on en parle, c'est très vite suspect, c'est presque ridicule, voire obscène, mais moi je m'en fiche complètement en fait, je m'en fiche complètement, et notamment l'écriture du livre m'a profondément aidé à crier ce que je disais du bout des lèvres au début, c'est-à-dire que, évidemment, enfin, quel autre mot je peux employer que celui d'amour dans la structuration du lien qui a été le mien avec Ubac et que les personnes habituées à la compagnie des animaux. Enfin, pourquoi se justifier? Quelle est cette drôle de manie de devoir en permanence classer, indexer notre amour ou notre peur au regard des joies et des peines du monde? À un moment, on a le droit, pour une fois, pour le coup, de se centrer un petit peu sur soi.
Et ça ne vous a pas empêché de sortir grandi de cette relation. Vous écrivez avant Ubac, « Je m'estimais seule dans les forêts et les montagnes. À mon retour, n'ayant pas vu d'homme, à qui voulait l'entendre, je claironnais cette solitude. Seule au monde !» En réalité, m'a-t-il appris, des milliers d'êtres m'avaient aperçu, examiné et laissé passer. Un grand merci à tous les trois, Véronique Mur, Cédric Sapin-Defour et Vinciane Després. Tous vos livres seront sur le site de France Culture, à la page, bien entendu, des rencontres de Pétrarque. Je donne le vôtre, juste Cédric Sapin-Defour. C'est moins long que la liste de ceux de Vinciane Després. Votre livre s'intitule Son odeur après la pluie. C'est évidemment ceux qui restent aussi. Et c'est paru aux éditions Stock. Un grand merci à tous les trois.
Merci à vous.
Merci.
Ces rencontres de Pétrarque, je remercie le public qui est là encore, attentif. Et ces rencontres de Pétrarque ont été préparées comme chaque jour par Roxane Poulain, réalisées par Nathalie Salle, avec les équipes du festival et celles de Radio France, Sandrine Bréchaud, Jean-Benoît Tétu, Alexandre James, David Abicassis, Mathieu Leroy et leur stagiaire Valentin. On se retrouve demain, et demain nous parlerons de l'intelligence collective, vaste programme. Dans une minute, c'est Arnaud Laporte et Affaires culturelles. Merci de rester à l'écoute de France Culture.
Collection mécanique du vivant, saison 4, l'abeille. Il y a environ 1000 espèces d'abeilles en France. L'abeille à miel, Apis mellifera, est de loin la plus connue et la plus surveillée. elle est essentielle à nos cultures. Les abeilles pollinisent près de 90% des plantes sauvages et les trois quarts des cultures dans le monde. Mécanique du vivant, saison 4, l'abeille. Un podcast de Marc Mortelmans, réalisé par Charles Trou sur franceculture.fr et l'appli Radio France.